Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. La suite des Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Vraiment, madame, répondis-je à Madame Linton, mon maître n'a aucune idée de votre état mental, et certainement il ne craint pas que vous vous laissiez mourir de faim. Vous ne croyez pas? Ne pouvez-vous pas lui dire que je le ferai? Persuadez-le. Donnez-lui votre avis personnel. Dites que vous êtes certaine que je le ferai. Non. Vous oubliez, Madame Linton, que vous avez pris ce soir quelque nourriture avec goût et vous vous en ressentirez demain. Si seulement j'étais sûr que cela le tuerait, interrompit-elle, je me tuerais à l'instant. Ces trois nuits affreuses, je n'ai pas fermé les paupières. Et oh, j'ai été torturé, j'ai été obsédé, Nelly. Mais je commence à croire que vous ne m'aimez pas. Comme c'est étrange. Bien que tous se détestent et se méprisent l'un l'autre, je pensais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de m'aimer. Et en quelques heures, tous sont devenus mes ennemis. Ils le sont devenus, j'en suis certaine, ces gens d'ici. Comme il est terrible d'affronter la mort entourée de ces visages de glace. Isabelle, pleine de terreur et de répulsion, effrayée d'entrer dans la chambre, ce serait si affreux de voir mourir Catherine. Et Edgar, grave, debout à mon côté pour contempler ma fin, puis offrant à Dieu des actions de grâce pour la paix restaurée à son foyer et retournant à ses livres. Au nom de tout ce qui a une âme, qu'aurait-il à faire de ses livres quand je suis en train de mourir? L'idée de la résignation philosophique de Madame Linton, que je lui avais mise dans la tête, lui était insupportable. Elle s'agita tellement que son égarement fébrile devint de la folie et qu'elle se mit à déchirer l'oreiller avec ses dents. Puis, se dressant toute brûlante, elle voulut que j'ouvrisse la fenêtre. Nous étions au cœur de l'hiver. Le vent soufflait avec force du nord-est et je m'y opposai. Les expressions fugitives de son visage et ses sautes d'humeur commençaient à m'alarmer terriblement et me remettaient en mémoire sa première maladie et les recommandations qu'avait faites le docteur d'éviter de la contrarier. Une minute auparavant, elle était dans un état violent. Maintenant, appuyée sur un bras, et ne paraissant pas prendre garde à mon refus de lui obéir, elle semblait trouver une distraction puérile à arracher les plumes par les déchirures qu'elle venait de faire à son oreiller et à les ranger sur son drap, suivant leurs différentes espèces. Ses idées avaient pris un autre cours. « Celle-ci est une plume de dindon, » murmura-t-elle en se parlant à soi-même. « Celle-ci de canard sauvage et celle-là de pigeon. » « Ah, ils mettent des plumes de pigeon dans les oreillers. Il n'est pas étonnant que je n'aie pu mourir. Il faut que j'aie soin de le jeter à terre quand je me recoucherai. Et en voilà une de coque de bruyère, et celle-là, je la reconnaîtrai entre mille, c'est une plume de vanneau huppé, joli oiseau. » Il tournoie au-dessus de nos têtes au milieu de la lande. Il voulait regagner son lit car les nuages arrivaient sur les hauteurs et il sentait venir la pluie. Cette plume a été ramassée sur la bruyère. L'oiseau n'a pas été abattu. Nous avons vu son nid en hiver, plein de petits squelettes. Heathcliff y a mis un piège et les vieux n'osent plus y venir. Je lui ai fait promettre après cela de ne plus jamais tuer un vanneau. Et il ne l'a plus fait. Mais en voilà d'autres. A-t-il tué Mévano, Nelly? Y en a-t-il de rouges parmi eux? Laissez-moi voir.
Quittez cette occupation puérile, interrompis-je. Je lui retirai l'oreiller et tournai les trous du côté du matelas, car elle était en train d'enlever l'intérieur à poignée. Couchez-vous et fermez les yeux, vous délirez, en voilà un gâchis. Le duvet fole partout comme de la neige.
Je le ramassai de tous côtés. Je vois en vous, Nelly, continua-t-elle comme dans un rêve, une femme âgée. Vous avez les cheveux gris et les épaules courbées, le lit et la grotte des fées sur le rocher de Pennystone. Vous ramassez en ce moment leurs flèches pour en percer nos génisses et vous prétendez, quand je suis près de vous, que ce ne sont que des flocons de laine.
Voilà où vous en serez dans 50 ans d'ici. Je sais que vous n'êtes pas ainsi maintenant, je ne délire pas, vous vous trompez, car autrement je croirais que vous êtes réellement cette sorcière décharnée, et je penserais que je suis sur le rocher de Pennystone.
Or j'ai conscience qu'il fait nuit, et qu'il y a sur la table deux bougies qui font reluire comme du jet l'armoire noire.
L'armoire noire? Où est-elle? Vous parlez en dormant?
Elle est contre le mur, là où elle est toujours, elle a un aspect étrange, j'y vois une figure.
Il n'y a pas d'armoire dans la chambre, et il n'y en a jamais eu.
Je me rassis et relevai le rideau du lit de façon à pouvoir la surveiller.
Ne voyez-vous pas cette figure, vous ? Demanda-t-elle en regardant attentivement dans la glace.
J'eus beau dire, je n'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était la sienne. Je finis par me lever et couvris la glace avec un châle.
Elle est toujours là derrière, poursuivit-elle avec anxiété. Elle a bougé. Qui est-ce? J'espère qu'elle ne va pas sortir quand vous serez parti. Oh, Nelly, la chambre est hantée. J'ai peur de rester seule.
Je lui pris la main et la priai de se calmer, car une série de tressaillements la secouait convulsivement et elle ne voulait pas détourner de la glace son regard fixe.
Il n'y a personne ici, insistai-je. C'était vous-même, Madame Linton. Vous le saviez bien, il y a un instant.
Moi-même, dit-elle en soupirant.
Et voilà minuit qui sonne.
C'est vrai alors, mais c'est effrayant.
Ses doigts s'accrochèrent aux draps et les ramenèrent sur ses yeux. J'essayai de me glisser vers la porte avec l'intention d'appeler son mari, mais je fus rappelé par un cri perçant. Le châle était tombé du cadre.
« Eh bien, qu'y a-t-il » criai-je. « Qui est poltronne maintenant? Éveillez-vous. Mais c'est la glace, le miroir, Madame Linton. Vous vous y voyez et j'y suis aussi à côté de vous. »
Tremblante et égarée, elle se cramponnait à moi. Mais l'horreur disparut peu à peu de son visage. La pâleur fit place à une rougeur de honte.
« Oh mon Dieu! Je croyais que j'étais chez moi, » soupira-t-elle. « Je croyais que j'étais couchée dans ma chambre à Hurlevent. Je suis faible. C'est pour cela que mon cerveau s'est troublé et que j'ai poussé des cris sans m'en douter. Ne dites rien, mais restez avec moi, j'ai peur de m'endormir, mes rêves m'épouvantent. »
Un bon somme vous fera du bien, madame, et j'espère que les souffrances que vous ressentez en ce moment vous empêcheront de recommencer à essayer de vous laisser mourir de faim.
Oh, si seulement j'étais dans mon lit dans la vieille maison, continua-t-elle avec amertume en se tordant les mains, et ce vent qui souffle dans les sapins près de la fenêtre, laissez-moi le sentir. Il descend tout droit de la lande, laissez-moi en recueillir un souffle.
Pour la calmer, j'entr'ouvris la fenêtre pendant quelques secondes. Une bouffée glaciale fit irruption. Je refermai et retournai à mon poste. Elle était couchée et tranquille à présent, le visage baigné de larmes. L'épuisement physique avait complètement apaisé son ardeur. Notre fougueuse Catherine n'était plus qu'une enfant gémissante.
Combien de temps y a-t-il que je suis enfermée ici ? Demanda-t-elle en revenant tout à coup à soi.
C'était lundi soir, répondis-je, et nous sommes à jeudi soir, ou plutôt vendredi matin à présent.
Quoi ? De la même semaine ? Pas plus longtemps que cela ?
C'est encore assez longtemps, quand on ne vit que d'eau froide et de mauvaise humeur. observai-je. « Eh bien, il me semble qu'il y a un nombre d'heures infinies, » murmura-t-elle d'un air de doute. « Il doit y avoir plus longtemps. » Je me rappelle que j'étais dans le petit salon après leur querelle et qu'Edgar m'a cruellement irrité et que je me suis enfui désespéré dans cette chambre. Dès que j'eus verrouillé la porte, l'obscurité complète m'accabla et je tombai sur le plancher. Je n'avais pas pu expliquer à Edgar que j'étais bien certaine d'avoir une attaque ou de devenir folle furieuse s'il persistait à m'agacer. Je n'avais plus d'action sur ma langue ni sur mon cerveau et peut-être ne se doutait-il pas de mon agonie. Il me restait à peine assez de sentiments pour essayer de lui échapper, à lui et à sa voix. Avant que je fusse suffisamment remise pour voir et pour entendre, le jour commença à poindre et Nelly, je vais vous dire ce que je pensais et ce qui m'obsédait sans relâche au point que je craignais pour ma raison. Tandis que j'étais étendu là, la tête contre ce pied de table, mes yeux discernant vaguement le carré gris de la fenêtre, je pensais que j'étais chez moi, enfermé dans le lit au panneau de chêne. Mon cœur souffrait de quelque grand chagrin que je n'ai pu me rappeler en me réveillant. Je réfléchis et m'épuisai à découvrir ce que ce pouvait être. Chose surprenante, les 7 dernières années de ma vie étaient effacées de mon esprit. Je ne me souvenais pas qu'elles eussent seulement existé. J'étais enfant, mon père venait d'être enterré et mon chagrin provenait de la séparation ordonnée par Hindley entre Heathcliff et moi. Pour la première fois, j'étais seul. Et sortant d'un pénible assoupissement, après une nuit de larmes, je levai la main pour écarter les panneaux. Ma main frappa le dessus de cette table, je la passai sur le tapis et alors la mémoire me revint tout d'un coup. Mon angoisse récente fut noyée dans un paroxysme de désespoir. Je ne saurais dire pourquoi je me sentais si profondément misérable. J'aurais dû être prise d'une folie passagère, car je ne vois guère de raison, mais supposer qu'à 12 ans j'ai été arrachée des hauts de mes liens d'enfance et de ce qui était pour moi comme Heathcliff l'était alors pour être transformé subitement en Madame Linton, la maîtresse de Truscroche et la femme d'un étranger proscrite. Exilé par conséquent de ce qui avait été mon univers. Vous pouvez vous faire une idée de l'abîme dans lequel j'étais plongé. Vous aurez beau secouer la tête, Nelly, vous avez aidé à me déranger la cervelle. Vous auriez dû parler à Edgar. Certainement vous l'auriez dû et l'obliger de me laisser tranquille. Oh, je suis brûlante. Je voudrais être dehors, je voudrais me retrouver petite fille à demi sauvage, intrépide et libre, riant des injures au lieu de m'en affoler. Pourquoi suis-je si changé? Pourquoi quelques mots font-ils bouillonner mon sang avec une violence infernale? Je suis sûr que je redeviendrais moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines. Rouvrez la fenêtre toute grande, laissez-la ouverte, vite, pourquoi ne bougez-vous pas? Parce que je ne veux pas vous faire périr de froid. Dites plutôt que vous ne voulez pas me donner une chance de vivre, reprit-elle d'un air morne. Mais après tout, je ne suis pas encore impotente. Je l'ouvrirai moi-même.
Eventually, this ain't doing a thing for me. They got him on milk and alcohol. out to the car, start it up. Feel bad, sad night, never saw a red light. Signs were screaming all around. I pulled on over and I shut her down. The black cop gave me a shot with his gun. Set up against the wall, don't make a run.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Les Hauts de Hurlevent, de Émilie Brontë, la suite. Et se glissant hors de son lit avant que je pusse l'en empêcher, elle traversa la chambre à pas très incertains, rejeta en arrière les battants de la fenêtre et se pencha dehors. Sans souci de l'air glacial qui tombait sur ses épaules comme une lame de couteau. Je la suppliai de se retirer. Et à la fin, j'essayai de l'y contraindre. Mais je reconnus bientôt que la force que lui donnait le délire surpassait de beaucoup la mienne. Elle avait le délire. Je m'en convainquis par la suite de ses actes et de ses divagations. Il n'y avait pas de lune. Et en bas, tout était plongé dans une brume obscure. Pas une lumière ne brillait dans une maison, près ou loin. Tout était éteinte depuis longtemps. Et celle de Hurlevent n'était jamais visible. Pourtant, elle affirmait qu'elle envoyait les lueurs. « Regardez !» s'écria-t-elle vivement. « Voilà ma chambre, avec une chandelle dedans, l'arbre qui se balance devant et une autre chandelle dans la mansarde de Joseph. Joseph veille tard, n'est-ce pas ? Il attend que je rentre pour pouvoir fermer la barrière. Bon, il attendra encore un peu. » C'est un voyage pénible, et j'ai le cœur bien triste pour l'entreprendre. Puis il faut passer par le cimetière de Gimmerton dans le trajet. Nous avons souvent bravé ensemble ces revenants, et nous sommes défiés l'un et l'autre de rester au milieu des tombes et de les sommer d'apparaître. Mais Heathcliff, si je vous en défie maintenant, vous y hasarderez-vous ? Si vous l'osez, je vous garderai avec moi. Je ne veux pas reposer là toute seule. On peut m'enterrer à 12 pieds de profondeur et abattre l'église sur moi, je n'aurai pas de repos, que vous ne soyez avec moi. Non, jamais. » Il s'arrêta, puis reprit avec un étrange sourire. Il réfléchit. Il préférerait de me voir venir à lui. Trouvez le moyen alors, pas par le cimetière. Que vous êtes lent. Soyez content, vous m'avez toujours suivi. Comprenant qu'il était vain de lutter contre son insanité, je cherchais comment je pourrais atteindre quelque chose pour l'envelopper sans la lâcher, car je ne pouvais la laisser seule près de la fenêtre ouverte. Quant à ma consternation, j'entendis tourner la poignée de la porte et M. Linton entra. Il venait de quitter la bibliothèque. En passant par le couloir, il avait entendu le bruit de nos voix, et la curiosité, la crainte peut-être, l'avait incité à venir voir ce que cela signifiait à cette heure tardive. « Oh, monsieur !» m'écriai-je en arrêtant l'exclamation qui montait à ses lèvres devant le spectacle qui s'offrait à lui et au contact de l'atmosphère glaciale de la chambre. « Ma pauvre maîtresse est malade et elle m'échappe complètement. Je ne puis en venir à bout, je vous en prie, venez la persuader de se remettre au lit, oubliez votre colère. » car il est difficile de lui faire faire autre chose que ce qu'elle veut. « Catherine, malade ? » dit-il, en se précipitant vers nous. « Fermez la fenêtre, Hélène. Catherine, pourquoi ?» Il s'arrêta. L'air hagard de Mme Linton le frappa de mutisme, et il ne put que nous regarder tour à tour avec horreur et stupéfaction. Elle est restée ici à s'agiter, repris-je, ne mangeant presque rien et sans jamais se plaindre. Elle n'a voulu laisser entrer personne jusqu'à ce soir, et c'est ainsi que nous n'avons pas pu vous informer de son état, puisque nous ne le connaissions pas nous-mêmes. Mais ce n'est rien. Je sentis que je donnais mes explications avec gaucherie. Le maître fronça les sourcils. « Ce n'est rien, n'est-ce pas, Hélène Dean ?» dit-il d'un ton sévère. « Il faudra que vous me rendiez compte plus clairement de l'ignorance où vous m'avez tenu de ceci. » Il prit sa femme dans ses bras et la considéra avec angoisse. D'abord, elle ne parut pas le reconnaître. Il était invisible à ses yeux égarés. Son délire, cependant, n'était pas fixé sur un objet unique. S'étant arrachée à la contemplation de l'obscurité du dehors, elle concentra graduellement son attention sur Edgar et découvrit que c'était lui qui la tenait. Ah, vous voici donc, n'est-ce pas, Edgar Linton ? Dit-elle avec une animation courroucée. Vous êtes un de ces êtres qu'on trouve toujours quand on en a le moins besoin et qu'on ne trouve jamais quand on en a besoin. Je suppose que nous allons avoir un déluge de lamentations maintenant, je le vois venir, mais rien ne pourra m'éloigner de mon étroite demeure de là-bas. Mon lieu de repos, où je parviendrai avant que le printemps soit passé, c'est là qu'il se trouve. Non pas avec les Linton, vous entendez, sous le toit de la chapelle, mais en plein air, avec une pierre tombale, et vous verrez, s'il vous plaît, d'aller les rejoindre ou de venir à moi. Mais Catherine, qu'avez-vous fait ? Commença le maître. Ne suis-je plus rien pour vous ? Est-ce que vous aimez ce misérable ? Taisez-vous ! S'écria Madame Linton. Taisez-vous à l'instant. Prononcez ce nom et je termine tout sur le champ en me jetant par la fenêtre. Vous pouvez être maître de ce que vous touchez en ce moment, mais mon âme sera au sommet de cette colline avant que vous portiez la main sur moi une autre fois. Je n'ai pas besoin de vous, Edgar. Je n'ai plus besoin de vous. Retournez à vos livres. Je suis heureuse que vous ayez une consolation, car tout ce que vous possédiez en moi a disparu. Son esprit divague, monsieur, interrompis-je. Elle a passé toute la soirée à dire des folies, mais laissez-la reposer, et avec des soins convenables, et elle se remettra. Désormais, nous devons faire attention avant de la contrarier. Je n'ai que faire de vos conseils, répondit monsieur Linton. Vous connaissiez la nature de votre maîtresse, et vous m'avez encouragé à l'exaspérer. Et ne pas m'avoir laissé soupçonner l'état où elle se trouvait depuis 3 jours, mais quel manque de cœur! Des mois de maladie ne pourraient produire un tel changement. Je commençais à me défendre, jugeant trop dur d'être blâmé pour l'entêtement pervers d'une autre. Je savais que la nature de Madame Linton était obstinée et impérieuse, m'écriai-je, mais je ne savais pas que vous vouliez encourager son caractère violent. Je ne savais pas que, pour lui faire plaisir, je devais fermer les yeux quand Monsieur Heathcliff venait. J'ai rempli le devoir d'une fidèle servante en vous avertissant. Et voilà ce qu'une fidèle servante reçoit comme gage, soit. Cela m'apprendra à me méfier de la prochaine fois. La prochaine fois, vous pourrez vous procurer vos informations vous-même. La prochaine fois que vous ferez des comptes, vous quitterez mon service, Hélène Dean. Vous préféreriez n'en rien savoir, sans doute, monsieur Linton. Vous autorisez Heathcliff à venir faire la cour à Miss et à profiter de chaque occasion que peuvent offrir vos absences pour empoisonner contre vous l'esprit de ma maîtresse. Si troublée que fût Catherine, sa pensée était assez alerte pour saisir notre conversation. « Ah, Nelly m'a trahi !» s'écria-t-elle avec passion. « Nelly est mon ennemi caché, sorcière que vous êtes. Ainsi, vous cherchez des flèches de fée pour nous blesser. Lâchez-moi, je vais l'en faire repentir. Je lui ferai hurler sa rétractation. » Une rage folle brillait dans ses yeux. Elle se débattait désespérément pour se dégager des bras de Linton. Je n'avais pas envie d'attendre la suite, et me décidant à aller chercher l'aide d'un médecin sous ma propre responsabilité, je quittai la chambre. En passant dans le jardin pour gagner la route, à un endroit où un crochet d'attache est fixé dans le mur, je vis quelque chose de blanc qui s'agitait d'une façon irrégulière, évidemment sous une autre influence que celle du vent. Malgré ma hâte, je m'arrêtai pour examiner ce que c'était, afin de ne pas laisser par la suite se former dans mon imagination la conviction que j'avais passé à côté d'une créature de l'autre monde. Grandes furent ma surprise et ma perplexité en découvrant, au toucher plus qu'à la vue, la chienne épagneule de Miss Isabelle, Fanny, suspendue par un mouchoir et sur le point d'étouffer. Je rendis bien vite la liberté à la pauvre bête et la déposai dans le jardin. Je l'avais vue suivre en haut sa maîtresse quand celle-ci était allée se coucher. Je me demandais comment elle pouvait être ressortie et se trouver là, et quelle était la personne mal intentionnée qui lui avait infligé ce traitement. Tandis que je défaisais le nœud qui entourait le crochet, il me sembla entendre à plusieurs reprises le bruit des sabots d'un cheval galopant à quelque distance. Mais j'avais tant de sujets de réflexion qu'à peine accordais-je une pensée à cet incident, encore qu'en cet endroit, à 2 heures du matin, ce fut étrange. M. Kenneth, par bonheur, sortait précisément de chez lui pour aller voir un malade dans le village, quand j'arrivai dans la rue. Le rapport que je lui fis de la maladie de Catherine le décida à revenir avec moi sur le champ. C'était un homme franc et rude. Il ne fit pas scrupule d'exprimer ses doutes de la voir survivre à cette seconde attaque si elle ne se montrait pas plus docile à ses instructions qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent. « Nelly Dean, dit-il, je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a là une cause qui m'échappe. Que s'est-il passé? De singulières rumeurs ont couru par ici. Une fille forte et courageuse comme Catherine ne tombe pas malade à propos de rien. Non, cela n'arrive pas à des personnes comme elle. Il faut quelque chose de sérieux pour déterminer dans cette organisation-là des fièvres ou d'autres manifestations semblables. Comment cela a-t-il commencé ? Le maître vous mettra au courant. Mais vous connaissez le tempérament violent des Earnshaw, et Mme Linton le possède au plus haut point. Ce que je puis dire, c'est que cela a débuté par une querelle. Elle a été frappée d'une sorte d'attaque au cours d'un accès de colère. C'est ce qu'elle raconte, du moins, car elle s'est enfuie au plus fort de cet accès et s'est enfermée. Ensuite, elle a refusé de manger et maintenant elle est alternativement dans le délire ou dans un demi-rêve. Elle reconnaît les gens qui l'entourent, mais elle a l'esprit plein d'idées étranges et d'illusions. « Monsieur Linton va être bien affecté, » observa Kenneth sur un ton interrogateur. « Affecté ? Son cœur se briserait s'il arrivait quelque chose. Ne l'alarmez pas plus qu'il n'est nécessaire. » « Bon, je lui avais dit de prendre garde. Il a négligé mes avertissements. Il faut bien qu'il en subisse les conséquences. N'a-t-il pas été intime avec Monsieur Heathcliff depuis quelque temps ?» Heathcliff fait de fréquentes visites à la grange, mais bien plutôt en s'autorisant de ce que la maîtresse l'a connu lorsqu'il était enfant qu'à cause du goût que pourrait avoir le maître pour sa société. À présent, il est dispensé de prendre la peine de venir en raison de certaines aspirations présomptueuses qu'il a manifestées à l'égard de Miss Linton. Je ne crois guère qu'on le reçoive encore. » « Et Miss Linton lui a-t-elle tourné le dos ?» questionna encore le docteur. « Je ne suis pas dans sa confidence, » répliquai-je, peu désireuse de continuer sur ce terrain. « Non, c'est une personne renfermée, » remarqua-t-il en secouant la tête. « Elle ne prend conseil que d'elle-même, mais c'est une vraie petite écervelée. Je tiens de bonne source que la nuit dernière, et c'était une jolie nuit, Heathcliff et elle se sont promenés dans la plantation derrière votre maison pendant plus de 2 heures. Il la pressait de ne pas rentrer, mais de monter sur son cheval et de s'enfuir avec lui. Mon informateur rapporte qu'elle n'a pu se débarrasser de lui qu'en s'engageant sur l'honneur à être prête lors de leur prochaine rencontre. Quand doit avoir lieu cette rencontre, c'est ce qu'on a pu entendre. Mais engagez vivement M. Linton à ouvrir l'œil. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.